Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Le commentaire de
Mathieu Boccoté, dépensé pas comme les autres.
Alors Mathieu, tu poses une question, est-ce qu'il faut craindre la présidence Biden? J'ai posé la question à Luc La Liberté un peu plus tôt, il a dit écoute là, Biden c'est pas un gars d'extrême gauche, il va faire comme Obama, il va faire comme Clinton, comme tous les démocrates, il va gérer centre-droit. Il dit la gauche, une fois qu'il arrive au pouvoir aux États-Unis, il gère centre-droit, t'es pas si optimiste.
Non, en fait, je pense pas qu'effectivement Joe Biden n'est pas un homme d'extrême gauche, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est un centriste dans la tradition démocrate, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais le fait est que la dynamique politique aux États-Unis en ce moment nous laisse croire, surtout au Parti démocrate, et au-delà du Parti démocrate, dans la société civile américaine, les universités, les médias, dans le grand capitalisme, pardon, nous laisse croire qu'il y a une forme de dynamique idéologique où Joe Biden pourrait n'être finalement qu'une forme de président paravent, de président de transition. C'est-à-dire, il est là, il va faire ce qu'il peut. Sa mission historique à lui, c'est de tenir ensemble l'Amérique, hein, dans un pays divisé où l'Amérique est en train de se diviser en deux peuples. Il y a manifestement la mission qui serait la sienne, c'est celle-là. Mais on voit l'aile gauche du Parti démocrate. On voit ce qu'on appelle maintenant la tendance woke, qui est très présente dans ce parti-là, qui est très présente dans la société civile américaine, qu'on a eu tendance à oublier depuis quelques semaines à cause des agités du Capitole, hein, de l'espèce de tentative d'insurrection du Capitole. Mais ce qui s'est passé au Capitole n'efface pas la présence d'une mouvance très radicale qui est présente dans ce pays. Et est-ce que Joe Biden va être capable de la contenir? Est-ce qu'il va vouloir la contenir? Est-ce qu'il va être capable de la contenir? Ou est-ce qu'il va se laisser déborder par elle? Je crois que c'est une question fort légitime à poser.
Et c'est drôle, ça m'amène. Écoute, je fais une parenthèse, mais tu vas comprendre que ça reste dans le même sujet. Tu sais, on demande toujours au Parti conservateur de montrer patte blanche et de se distancer des coucous au sein de son parti. C'est drôle, on demande pas ça aux gens de gauche. On demande pas à Justin Trudeau de se dissocier des woke, de se dissocier des extrémistes religieux, de se dissocier des communistes. On fait pas ça. Toujours la droite.
C'est ce que j'appelle le principe de la symétrie morale. Hein, L'. C'est-à-dire, d'un côté, les excès sont vus comme révélant de la part la plus sombre de la bête humaine. Ça, c'est excès côté droit. Excès côté gauche, c'est comme une forme de bonté exaspérée, de générosité incandescente ayant perdu le sens de la mesure. Autrement dit, les excès à gauche sont jugés moralement plus tolérables que les excès à droite. Or, pour peu qu'on utilise ces catégories. Or, le 20e siècle, semble, à mon avis, nous a confirmé 100 fois que la déraison politique n'avait pas de camp et que toute tendance pouvait s'exacerber. Et ce qu'on appelle la gauche radicale, aujourd'hui, elle est renaissante. Elle est renaissante et par ailleurs, elle est légitimée. C'est là qu'elle est dangereuse. C'est-à-dire, quand on voit les coucous qui se déguisent en Spider-Man ou en Marvel, tout ça, on les voit. Pardonne-moi, quand on voit les radicaux dits à droite, on les voit, on les repère et on dit effectivement, vous n'avez pas votre place dans le portrait. Très bien. De l'autre côté, on a toujours tendance à voir une forme, je dis, d'excès de générosité, des gens qui ne sont pas perçus comme des radicaux, des extrémistes, selon les termes qu'on utilisera. Ils sont jamais jugés comme tels. Ce qui fait que, de ce point de vue, il y a une forme de complaisance, d'asymétrie, de tendresse même. Eh ben moi, je pense que de ce point de vue, Biden va, surtout dans un pays aussi divisé que le sien. C'est pas aux Québécois à dire à Joe Biden comment gouverner son pays, ça y a pas de doute là-dessus. Mais on regarde ça, puisqu'on peut se méfier à bon droit des folies américaines, eh bien, on peut dire ce qui se passe là-bas finit par arriver ici. On peut espérer qu'il va être capable de contenir sa base, de contenir ses excités, qui, eux, sont dans une logique de purge. Parce que ça, faut le dire, là, il y a une volonté de purge en ce moment qui va bien au-delà de QAnon et le dernier carré, la garde prétorienne dépenaillée du 6 janvier au Capitole. Il y a cette idée que tous les millions d'électeurs de Trump étaient potentiellement des fascistes factieux. Non. Faut pas tout mélanger là-dedans. On peut pas traiter la moitié d'un pays comme si c'était des fascistes factieux, sauf être dans une logique de guerre civile. Il faut, me semble-t-il, être capable de raison garder et s'intéresser à ceux qui ont voté pour Trump sans enthousiasme ni hésitation. Ceux-là doivent être intégrés dans le calcul politique du pays, mais ça, ça implique une forme de forme de courage chez Biden pour affronter sa propre base et se rappeler que ceux d'en face n'étaient pas tous des fous.
Moi, je crains plus Mme Harris que Joe Biden. Joe Biden étant un homme de sa génération, je pense que quand même le mouvement woke, là, il doit pas être très, très collé là-dessus. Par contre, Mme Harris, je la soupçonne d'être beaucoup plus près de ce mouvement-là. Et si Joe Biden ne dure pas les 4 ans, parce qu'on va s'entendre que c'est pas Iron Man, elle peut devenir première ministre, et là, ça peut... Est-ce que tu partages
oui,
ce point de vue?
Oui, absolument. Je pense que les hommes et les femmes politiques aiment se coller à ce qui semble le plus vivant, le plus grouillant. Or, on peut croire, on peut craindre que Mme Harris, qui est une femme de intellectuellement de qualité, nul n'en doute, mais on peut craindre que Mme Harris ne comprenne que, bon, la vitalité est là, l'énergie combattante est là, la force est là, bon, eh bien, on va s'appuyer là-dessus. Et puis la tentation de se sentir éternellement jeune en embrassant les lubies des plus jeunes, ça existe aussi, il faut jamais l'oublier. Hein. Donc moi, non, je pense que le scénario que tu décris est le bon, c'est comme ça que je le vois. Joe Biden, qui est un homme d'un autre temps, d'un autre âge, il n'y en a pas pour 8 ans devant lui. Pardon, on n'est même pas certain qu'il y en a pour 4 ans. Mais à tout le monde, on va lui souhaiter. Et là, il y a Mme Harris qui pourrait s'appuyer effectivement sur une base, une mouvance assez radicale, se laisser emporter par ça. Je pense que c'est une inquiétude légitime, mais elle pourrait en plus lui donner une forme de caution bourgeoise. Donc, c'est une crainte légitime. Mais là, j'ai l'impression qu'on va assister pendant les prochaines semaines à une forme de grandes séances d'enthousiasme obligatoire où il va falloir chanter les louanges automatiquement de ceux qui viennent de prendre le pouvoir, comme si c'était des saints qui venaient délivrer l'Amérique. Moi, j'ai tendance à me dire un instant, se réjouir du départ de Donald Trump est une chose tout à fait compréhensible et légitime, et c'est très bien, et je pense qu'on s'en réjouit tous. On était devant une présidence toxique, on était devant un égout boursouflé, on était devant un homme...
Mais oublie la personnalité de Trump. J'en parlais tantôt à Adrien. Oublie ses problèmes, ses travers personnels et à la limite, je pourrais même dire ses problèmes psychologiques. Regardons froidement. Il s'est tenu debout contre la Chine. Il a dit à la Chine de cesser de faire de l'espionnage à grande échelle, de respecter le copyright, les droits d'auteur. Il a ramené la nation à l'avant-plan en disant, ben il faut avoir les deux mains sur le volant, il faut la nation, c'est important, le protectionnisme, dénoncer le biais à gauche des médias, dénoncer la rectitude politique. Objectivement, il était pas dans le champ là-dessus. Là.
Non, c'est pour ça que moi je dis qu'il faut distinguer entre l'homme et son égo boursouflé.
Oui.
Ça, c'est une chose. C'est-à-dire, en politique, quoi qu'on veuille, la personnalité compte. Ce sont des hommes, ce sont des femmes qui décident, et puis faut tenir compte. On espère être devant des esprits plus équilibrés que moins. Bon. Mais une fois que c'est dit, ça je le répète depuis 2016 en fait, les thèmes sur lesquels il s'est fait élire, les angoisses qu'il a su canaliser, même s'il n'a pas su les traduire en projet, eh bien tout ça n'est pas à condamner de A à Z simplement en disant le mot Trump, puis là Ghostbuster arrive. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut être capable de voir quand il plaidait pour un certain retour des frontières, quand il disait faut se tenir face à la Chine, quand il disait attention à ce qui se passe dans les campus, et il n'y avait pas tort sur tout. Ensuite, ouais, comme je dis, il y avait une personnalité si déréglée qui allait écraser tout le reste. Mais les historiens qui vont repasser à travers ça dans quelques années, lorsqu'on écrira sur lui avec plus de sobriété et moins de quolibets, je pense qu'on va continuer de dire qu'on était devant un président toxique, d'accord, sans le moindre doute, mais qu'on était devant un mouvement qu'on ne saurait congédier de A à Z. La critique, justement, donc de l'impérialisme chinois, la critique de la dérive des campus, la critique de refus de la logique de la frontière. Bon, eh ben ça, il va falloir faire un tri. On n'y est pas en ce moment-là, on est dans le mode du soulagement, c'est très bien, c'est parfaitement compréhensible et c'est fort légitime. Mais lorsque le soulagement sera passé, il va falloir se rappeler que ce qui a porté Trump au pouvoir il y a 4 ans, c'est encore agissant dans la société américaine, que les forces qui ont fait en sorte que plus de 70 millions d'Américains ont voté pour lui, malgré tout, eh ben c'est parce qu'il y avait manifestement un malaise qui continue d'exister. Mais ça, je pense que c'est aujourd'hui, c'est difficile de le dire. Dans les prochaines semaines, les prochains mois, quand on va retrouver on peut espérer une forme de sobriété minimale dans l'analyse et la description des faits, on peut s'attendre à ce que là, on se dise, bon, il est temps de faire un tri.
Oui, et écoute, j'espère que les médias ne seront pas seulement des cheerleaders du gouvernement de Joe Biden, mais pourront aussi continuer à être critiques. J'imagine qu'au début, il va y avoir comme une lune de miel entre les médias et Biden. J'espère qu'elle ne durera pas trop longtemps.
Oui, ben il y a un moment d'incandescence, il y a un moment d'enthousiasme. Moi, je pense surtout qu'il y a un moment de soulagement. Ça, je sais. Le soulagement par rapport au départ de Trump, il est sincère. Bon. Ensuite, il va falloir beaucoup d'imagination quand même pour chercher à nous faire passer ce charmant monsieur qui a fait sa campagne de son sous-sol au Delaware, si je me trompe pas, comme la force de renaissance des États-Unis. Il faut, tu sais, il y a ce fameux pouce, mais pouce égal. Alors là, je crains qu'on oublie de pousser égal dans les prochaines semaines et les prochains mois. Je pense qu'il est possible de souhaiter bonne chance, de dire que Joe Biden n'est pas un homme sans qualité, loin de là, qu'on peut espérer qu'il mise sur sa personnalité d'ancien monde pour chercher à tenir ensemble une Amérique qui se divise, très bien, qu'on peut espérer que le fait que ce soit un centriste à l'ancienne l'amène à se tenir face au woke de son parti, très bien, mais conservons néanmoins des attentes raisonnables et comprenons que c'est pas lui qui incarne l'avenir de son parti. Il ne nous est pas interdit, autrement dit, de regarder ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui avec un peu de sobriété et sans enthousiasme surjoué.
Tout à fait. Merci beaucoup. On se reparle demain. Bonne journée.
Bonne journée. Bye-bye.